RLC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, le grand show de l'info. Éric Brunet.
C'est à peine croyable, mais peu de journalistes ont relevé cette petite phrase du directeur de la Bourse de Londres, publiée dans The Independent. La France sera le prochain pays visé par les investisseurs. Ce haut responsable a expliqué que le déficit public de la France est plus élevé qu'on ne le croit, et que par conséquent, bien les marchés ne seraient pas prêts à financer ce déficit. Voilà, un pessimisme partagé d'ailleurs par les Français, puisque le quotidien Sud-Ouest nous a appris hier que plus d'un Français sur deux, craint la contagion des crises grecques et irlandaises à la France. Pas vraiment exaltant, même si le gouvernement nous chante une autre chanson.
On est dans le peloton de tête, on a les intérêts les plus bas, la croissance est repartie, le chômage baisse, la politique économique, finalement, elle marche.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Alors avec nous, Christian de Boissieux, qui est président du Conseil d'analyse économique, et merci d'être avec nous. Bonjour Christian de Boissieux.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes plutôt dans le clan des optimistes et vous pensez que cet expert britannique des marchés a un peu fantasmé sur la situation tragique de la France ?
Je ne suis pas dans le clan des optimistes, je suis dans le clan des réalistes. Aujourd'hui, la France emprunte à des conditions de taux d'intérêt qui sont heureusement sans commune mesure avec ce que payent la Grèce, l'Irlande, le Portugal ou même l'Espagne. Donc on peut toujours jouer à se faire peur, mais à finir par jouer à se faire peur, on joue un jeu, à mon avis, dangereux. Objectivement, c'est pas l'avis de Christian de Boissieux, c'est l'avis des marchés. Je répète que quand vous regardez, par exemple, les taux à 10 ans, la France paye une toute petite prime de risque par rapport à l'Allemagne, et elle n'est pas du tout dans la même catégorie que les pays que vous avez cités.
D'accord. Avec nous, Nicolas Marquez, qui est chercheur à l'Institut économique Molinari, qui fait un peu d'analyse économique des politiques publiques. Bonjour Nicolas Marquez.
Oui, moi c'est que les Français s'inquiètent, hein. Les Français et les marchés. Ça fait 35 ans qu'on est en déficit, ça fait 35 ans qu'on est dans le rouge. On n'est jamais revenu à l'équilibre depuis 1974. C'est du jamais vu depuis la Révolution française. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on dépense en moyenne 20% de trop chaque année, et ça inquiète bien sûr les marchés.
Pourquoi le directeur de la Bourse de Londres a dit ça, selon vous? C'est une vision réaliste des choses. Il nous a carrément mis dans le prochain peloton avec le Portugal et l'Espagne. Hein. Portugal, Espagne, France, dit-il, seront les prochaines victimes de cette crise.
Tout à fait, c'est des pays qui font la cavalerie financière. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont jamais ou qui ont du mal à équilibrer leurs comptes, qui chaque année font du déficit, qui financent par de la dette, et qui chaque année émettent des nouvelles dettes pour rembourser les dettes arrivant à échéance. Et ça, c'est inquiétant. On n'est jamais dans les clous. Les finances publiques dérapent.
Est-ce que Marc Fiorentino est avec nous? Il est spécialiste des marchés financiers. Lui aussi est fondateur du site allofinance.com. Marc Fiorentino, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, pour vous, il y a quand même un réservoir extraordinaire, c'est l'épargne. L'épargne des Français qui, en cas de coup dur, est là.
Oui, je pense que là, on est dans le cadre d'une surenchère en ce moment. Chacun y va de l'un dit l'Espagne et puis l'autre. On connaît le plan de route, hein, l'Espagne, l'Italie et puis peut-être après derrière la France. Déjà, il faudrait passer par l'Espagne, on n'y est pas encore. Il y a quand même une situation qui est difficile. On a un vrai déficit, on a un vrai problème de dette. Parler maintenant de faillite, d'attaque, enfin on est un peu dans le fantasme et dans la surenchère. Il ne faut pas oublier une chose qui est la force finalement de la France, c'est son épargne. L'épargne des Français aujourd'hui, si on lançait un vrai grand emprunt, pas une sorte de simulacre de grand emprunt comme celui qu'on a lancé qui ne va pas servir à grand chose et qui n'a rien d'un grand emprunt, si demain on avait vraiment des difficultés pour se financer, ce que je ne crois pas, à l'étranger à des taux favorables, eh bien il suffirait tout simplement de lancer un emprunt avec une incitation fiscale tournée vers les investisseurs français, et avec l'argent qu'il y a aujourd'hui sur les livrets A et dans la plupart des placements, il faut quand même rappeler que 92% des ménages français ont un placement financier.
Christian de Boissieux, je reviens vers vous. Je veux pas faire le journaliste qui est dans la dénégation de l'économie de marché, vous voyez, c'est pas du tout mon truc, mais c'est vrai que on parle des investisseurs et qu'il n'y a jamais eu de constance éditoriale, si je puis dire, chez ces gens-là. C'est une population que le moindre frémissement fait réagir. Et c'est ça qui est quand même plus inquiétant, c'est que quelques petites mauvaises nouvelles peuvent assez rapidement nous plonger dans un scénario qui serait pas forcément un scénario catastrophe, mais qui serait un scénario de déstabilisation tout de même. Christian de Boissieux.
Je ne verse pas du tout dans la théorie. je verse pas dans la théorie du complot.
Oui.
Même si ces bruits viennent de la place de Londres, qui a jamais marqué beaucoup d'empathie pour l'euro et pour la zone euro. Mais je ne verse pas dans cette théorie-là. Je pense, comme mes collègues autour du micro, que la France doit effectivement réduire ses déficits et ses dettes publiques, mais elle n'est pas la seule. Regardez aujourd'hui le déficit budgétaire américain, regardez le plan annoncé par M. Cameron, qui est à la fois très courageux et qui prouve aussi l'ampleur des problèmes de finances publiques en Grande-Bretagne. Donc,
on est incapable de faire ça, nous, Christian de Boissieu. On est quand même moins dans le chirurgical en France que nos amis anglais.
On a du mal à le faire. Les Américains ont été à l'excédent il y a quelques années.
Oui, Nicolas Marquez.
On a déficit depuis 35 ans. C'est ça qui est inquiétant. Plus que les déclarations conjoncturelles, c'est anormal que l'État français soit en déficit depuis 35 ans. On a une dette qui représente 1600 milliards. On a 83% du PIB en dette. Il y a quelques années, souvenez-vous, on nous disait les critères de Maastricht, on les respectera toujours. C'est nous, la France, qui les avons imposés à nos négociateurs allemands et aux autres pays européens. On a dépassé les critères, on les a explosés, rien que pour la dette de l'État. Quand on rajoute aussi la dette de la sécurité sociale, la dette des régimes de retraite, la dette implicite, on arrive à 200% du PIB.
C'est totalement anormal. Nicolas Marquez, ça veut dire que, selon vous, à l'Institut économique Molinari, vous pensez quoi, donc là, à court terme, dans les 2-3 ans, pour revenir sur la question que je pose là au 32-16 aujourd'hui, vous pensez quoi? Est-ce que la France va plonger comme le Portugal?
Il faut revenir dans l'orthodoxie financière, il faut rééquilibrer les budgets.
Oui, mais on le fait pas. On le fait pas, donc c'est pas la question.
Je crois qu'il y a quand même une solution dont on parle pas et que les Allemands ont évoqué, et qui est la solution pour répondre à votre question tout à fait directement, vers quoi va-t-on? Eh bien, on va tout simplement, il faut le dire et avoir le courage de le dire, vers une restructuration de la dette des pays surendettés, parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut en termes de contrôle de déficit, on ne pourra plus repayer la dette et on ne pourra jamais la payer. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Nicolas Marquez, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut dire, bon, ben voilà, comme une entreprise qui va se mettre en redressement judiciaire, il y a un moment où il faut dire, bon, ben voilà, vous avez de la dette d'un pays surendetté, eh bien on est désolé, vous en avez pour 100, eh bien elle ne vaut plus que 80, mais ces 80, on va bien vous les rembourser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la restructuration, et c'est ce que veulent les Allemands, ils ont été très clairs là-dessus, et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs la crise irlandaise.
C'est comme pour les familles surendettées en France. C'était Marc Fiorentino de dallofinance.com. Juste une seconde, Antoine m'appelle au 32-16, Stéphane m'appelle au 32-16. Allez, on va commencer par Antoine qui appelle de la région toulousaine. Vous n'êtes pas de ceux qui grossissent la cohorte des inquiets, hein, Antoine?
Non, certainement pas. Le pessimisme nourrit le pessimisme. Marc Fiorentino et Christian de Boissieu, qui sont de fins observateurs des marchés, le savent bien. Il me revient à l'esprit un mot de Clausewitz qui date de 1834. Les craintes des hommes constituent un terrain fertile pour les mensonges et les déguisements de la vérité. Donc, une fois qu'on a bien appréhendé ce point, on peut comprendre que ce pessimisme culturel, finalement, sera fort négatif. Maintenant, je remarque simplement que ces propos viennent de quelqu'un dont, finalement, tout le monde se contrefout, parce que les marchés ne bougent pas vraiment aujourd'hui. On est à moins 0,2.
Vous parlez du directeur de la Bourse de Londres, hein, qui a dit que la France allait plonger.
Tout à fait, qu'il commence déjà à réguler sa propre industrie financière, puisque Londres est un paradis fiscal. Il y a un nombre de hedge funds qui font des spéculations à très court terme. Quand la City a largement été renflouée par le gouvernement Brown, qui d'ailleurs est tombé aux élections suivantes. Donc maintenant, mon sentiment, c'est que la France, il ne faut pas raisonner en endettement brut, on raisonne d'abord en flux financier, on a des impôts qui rentrent, on a un patrimoine national qui génère des revenus pour l'État, qui nous permet de faire face. Ensuite, il y a aussi un fait important, comme a dit Marc Fiorentino, il y a une réserve d'épargne qui est très importante. L'assurance vie en France, c'est 1500 milliards d'euros.
Ouais. 1500
milliards d'euros.
Alors ça veut dire qu'on
exactement la dette de l'État.
On lance un grand emprunt national et on règle le problème comme ça.
Les grands pays comme la Corée du Sud en 93 l'ont fait. Mmh. Il y a la possibilité, effectivement, vous lancez un grand emprunt avec un vrai avantage fiscal, et je suis sûr que les Français, un peu comme les emprunts de guerre de 1918, bon, pardon pour l'analogie, mais je suis persuadé que nous avons les moyens de rebondir. Ne rentrons pas dans le pessimisme culturel.
On a de belles
industries, on a tout de même un potentiel économique que même s'il est affecté, il reste important. On est présent dans tous les segments de l'économie. Pas comme le Portugal, pas comme la Grèce. On sait faire des technologies fines, du luxe, du tourisme, du transport.
Vous voyez, les enfants, le niveau d'expertise des auditeurs d'RMC au 32-16, ça rigole pas. Hein. Merci Antoine. Et seul un homme qui m'appelle du pays du rugby peut adresser comme ça une pique très légèrement anglophobe au directeur de la Bourse de Londres. Mais ça fait du bien, parfois il faut entretenir cette douce et sympathique anglophobie multiséculaire. Christian de Boissieu. Allô?
Oui.
Christian de Boissieu, oui.
Oui, écoutez, moi je dis... Bien sûr qu'il faut, en France comme ailleurs, dans la plupart des pays européens, réduire les déficits et les dettes publiques. Bon, mais en même temps, et je rejoins totalement ce qu'a dit Marc Fiorentino, il y a de l'épargne en France et la crise a eu plutôt tendance à augmenter le taux d'épargne des Français. Donc le débat, c'est de faire en sorte qu'elle serve à financer vraiment l'investissement des entreprises, le développement des PME, etc. Donc ça, c'est... Moi, je suis pour une politique beaucoup plus active de l'épargne que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Oui.
Et puis, n'en rajoutons pas, de toute façon, je le répète, quand vous regardez les chiffres, la France n'est pas considérée comme faisant partie de la même boîte que les pays qui aujourd'hui sont attaqués. On a des choses à faire, il ne faut pas en rajouter. Hein.
Donc alors, je vous donne 5 secondes, Christian de Boissieu, pour répondre à la seule question qui prévaut ce jour, qui est posée par le directeur de la Bourse de Londres dans une interview à The Independent ce week-end. Est-ce que la France, pour vous, dans les prochains mois, risque de plonger comme le Portugal? Votre réponse est...
Et non.
Elle est non.
Non.
Marc Fiorentino d'Allofinance.com, est-ce que la France risque de plonger comme le Portugal?
Ça dépend ce qu'on entend par plonger. Est-ce que les taux français peuvent remonter sur les craintes d'investisseurs? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut avoir une vraie difficulté de financement? La réponse est non.
Nicolas Marquez, chercheur à l'Institut économique Molinari, est-ce que la France peut plonger comme le Portugal et comme le prétend cet analyste britannique?
On verra, mais si on fait les mêmes erreurs que le Portugal, il n'y a pas de raison qu'on arrive à des solutions différentes.
Et là, on n'a pas pris une meilleure voie, selon vous?
On n'a pas pris une meilleure voie. Non. On continue à dépenser plus. Le budget qui va être voté va nous faire 6% de déficit prévisionnel. On atteindra 6, 7. On sait ce qu'il y a derrière la réalité des chiffres. On ne prend pas les bonnes solutions.
Avec nous, un appel de Seine-et-Marne, c'est Stéphane qui a 43 ans. Bonjour Stéphane.
Bonjour Eric, ravi de vous avoir à l'antenne. C'est vrai que depuis le temps que j'essaye de vous avoir, parce que vous avez toujours des sujets très intéressants.
Bah, c'est très gentil à vous. Alors vous savez, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le journal Sud-Ouest, le journal régional Sud-Ouest, a sorti un sondage hier, dans Sud-Ouest dimanche, qui nous apprend que 52% des Français sont extrêmement pessimistes et sont dans ce scénario, je dirais pas scénario catastrophe, mais considèrent qu'il est tout à fait possible et probable que la France connaisse le même sort que celui de l'Irlande. Pour faire court, est-ce que vous faites partie de ce groupe de Français pessimistes?
Alors, pour autant, je ne suis pas français, donc ça c'est un petit détail. Maintenant, je suis effectivement un peu pessimiste parce que je vois à mon échelle à moi, qui suis un simple citoyen, qui n'ai aucune influence sur quoi que ce soit, si ce n'est sur mon propre compte, je vois comment mon propre compte déjà prend une grosse claque. Je vois en tant que salarié, parce que nous sommes deux salariés dans la famille, nous avons 3 enfants, nous avons ensemble 1400 et 1600, nous avons à nous deux 3000 euros, entre ma femme et moi. Sur ces 3000 euros, je dois bien sûr financer tout ce qui est véhicule, donc la consommation des véhicules, l'assurance, etc. Ça sont des postes permanents, mais je dois aussi financer l'achat du véhicule, à savoir que là j'étais obligé d'acheter un véhicule d'occasion, parce que j'avais pas les moyens d'en acheter un neuf, et je vois ce que ça me coûte.
Donc après, vous êtes en train de me dire que vous avez des crédits, et même peut-être des crédits à la consommation?
Tout à fait, j'ai des crédits à la consommation, parce que maintenant on ne peut plus rien acheter sans passer obligatoirement par un crédit à la consommation. Je suis en face de chez vous au salon nautique. Même pour ne serait-ce qu'un simple kayak qui vaut 900 euros, on me propose tout de suite la solution financement. On me dit, mais attendez monsieur, on peut le financer par le biais de tel ou tel organisme, il n'y a aucun problème, vous payez 50, 60 euros par mois, ou vous payez en 10 fois, etc. On est toujours dans cette optique du financement. Si la France commence à jouer à ce jeu-là, mais on va se ramasser. Déjà, quand on entend qu'on a un déficit public de 1,6 milliard d'euros. Moi, à ma petite échelle qui gagne mes 3000 euros par mois avec ma femme, pour moi, c'est un montant astronomique. Oui. Comment est-ce que la France va pouvoir rembourser un truc comme ça quand moi, déjà, je vois que pour rembourser 6000 euros, je tire la langue.
Oui, merci Stéphane. Marc Fiorentino d'Allofinance.com. C'est vrai, vous nous disiez, heureusement qu'il y a ce réservoir de l'épargne en France, mais je vous ferai aussi remarquer qu'il y a aussi ce non-réservoir du crédit. Hein.
Non, alors là-dessus, je suis désolé, mais bien sûr, hein, chaque cas, et il y a des cas qui sont de surendettement qui sont importants, mais à l'échelle nationale, l'endettement des ménages est relativement faible par rapport aux autres pays, et on est un pays où il y a une culture d'épargne et pas un pays où il y a une culture d'endettement, contrairement à l'Angleterre, les États-Unis et même l'Espagne. Et il y a une chose dont il faudrait quand même parler, c'est l'extraordinaire réservoir de richesse qu'il y a dans l'immobilier. 58% des ménages français ont leur résidence principale. Or, l'immobilier a pris 20% ou 15% en un an. Ça veut dire que quelque part, la richesse de 58% des ménages français, 58% c'est pas 3% de la population, c'est pas que les plus riches, hein. 58% des ménages français viennent de voir quand même une partie de leur patrimoine importante qui a pris 15%. Donc ça aussi, on en parlera plus tard dans quelques mois. C'est aussi une source de financement pour l'économie dont on pourrait profiter.
Merci à vous, Marc Fiorentino, d'Allofinance.com. Merci à Nicolas Marquez de l'Institut Molinari. Merci également à Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique. Trois visions très différentes qui ont commenté cette petite phrase du directeur de la Bourse de Londres qui a déclaré hier que la France risquait de faire partie du prochain groupe de pays qui serait marqué par cette grande crise européenne, un peu à l'instar de l'Irlande. Voilà.